La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine aux origines du Hirak en Algérie, ce qui signifie le mouvement en arabe. Un mouvement puissant, pacifiste, créatif, réunissant les Algériennes et les Algériens chaque vendredi à travers tout le pays. Un mouvement pour la liberté, pour le changement, déclenché le 22 février 2019 suite à l'annonce officielle de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat.
يشرفني أن أعلن أن جبهة التحرير الوطني ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة.
Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir.
Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rongent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Che Guevara, ma tombe, emmenez-moi là-bas.
Au micro de notre correspondante Leïla Berhatou, les manifestants expriment leur humiliation face au mépris de la classe dirigeante, prête à tout pour se maintenir au pouvoir en Algérie, alors que le président Bouteflika est incapable de s'adresser directement à son peuple depuis des années.
Je pense que l'expression du peuple est sans équivoque. J'espère qu'elle sera entendue par les politiques et les tenants du pouvoir. Car je pense que le temps du changement a sonné. Oui, la mobilisation est un peu partout dans les autres villes, notamment à Béjaïa, une forte mobilisation, à Tizouzou aussi. Et je pense que partout en Algérie, des gens sortent pour justement créer leur ras-le-bol de l'impasse politique.
Est-ce que c'était prévu, prévisible une telle mobilisation ?
Franchement, personne ne pouvait prévoir une telle mobilisation. On savait que les Algériens ont reçu la candidature du président comme une violence et comme une indignation. Et je pense que là, ils expriment cette indignation et cette colère. Mais tout se passe bien.
Pour la première fois dans l'histoire, des millions de femmes et d'hommes se réunissent pacifiquement pendant des mois pour réclamer une authentique démocratie. Quel message politique délivre ce mouvement, le Hirak ? Que nous disent ces slogans ? Quelle vision les Algériennes et les Algériens ont-ils de leur classe dirigeante ? Et quelles sont les raisons profondes du soulèvement qui réclame la liberté 60 ans après le combat pour l'indépendance ? Autant de questions à partager avec vous, chers auditeurs, et avec nos invités, l'économiste Omar Bendera et l'éditeur François Gèze, tous les deux membres de l'association Algeria Watch, créée en 1997 pour dénoncer les violations des droits humains en Algérie et faire connaître les réalités de son régime et de sa société.
مرفوع الراس وشامخ الصدر علمه مربوط في الظهر في يده شعار المسيرة ما هي مقطرة عنا أحرار سيدي.
Hirak en Algérie, l'invention d'un soulèvement, c'est le titre du livre collectif, plus de 15 contributeurs, publié aux éditions La Fabrique et co-dirigé par nos invités, Omar Bendera, bienvenue.
Bonjour.
Et François Gèze, bonjour. Bonjour. Nous venons de revivre, grâce à nos archives sonores, l'annonce de la candidature de Bouteflika à un cinquième mandat présidentiel. C'était en février 2019, ainsi que les premières réactions de la rue. François, quel souvenir vous gardez de ce moment précis ?
Une grande émotion, une très grande émotion, parce que ça fait
plusieurs décennies qu'on se bat pour dénoncer les violations des droits humains, dénoncer un régime d'oppression de son peuple depuis pratiquement qui a confisqué la lutte de libération à l'indépendance. Et tout d'un coup, on voit ce peuple s'exprimer avec une joie, avec une lucidité, avec une détermination et un pacifisme qui effectivement, nous a aussi surpris, faut bien l'avouer, même si on sentait que ça cheminait souterrainement, mais l'ampleur que ça a pris le 22 février 2019, ça, c'était quelque chose de formidable.
Omar Bandera, votre 22 février 2019.
Avant de répondre à votre question, oui. Je voudrais simplement évoquer très rapidement le souvenir de deux de vos collègues journalistes, Amar Ben Salem, de son nom Ali Boudoura, qui était votre correspondant à Alger. Et Toufik Ben Aïchouch, qui était également grand reporter et qui vient de nous quitter.
Et je pense que je regrette beaucoup.
Ils auraient adoré couvrir et commenter cet événement.
Je suis sûre qu'ils nous entendent.
Voilà. Donc oui, moi j'ai l'impression, en réécoutant cette archive sonore, d'une époque complètement révolue. J'ai l'impression d'avoir changé complètement d'épisode. Ce n'est plus la même séquence. Ça paraît extrêmement lointain. En même temps, c'est vrai, François le dit avec justesse, personne n'anticipait avec cette mobilisation aussi massive, aussi puissante et aussi pacifique. Même si nous sentions depuis quelques mois l'exaspération montée, une certaine perte de patience devant l'incurie de plus en plus grotesque du régime.
Au fond, est-ce qu'à ce moment-là, c'est seulement la candidature de Bouteflika qui est rejetée par les manifestants, ou bien est-ce que c'est beaucoup plus profond ?
C'est la coupe d'amertume qui a débordé, pour paraphraser un auteur de l'Antiquité. La candidature de Bouteflika a été l'injure de trop. Dans un contexte où le peuple algérien, dans toutes ses composantes, est le témoin d'une espèce de déshérence de la gestion gouvernementale, d'une montée absolument invraisemblable de la corruption, qui devient un système qui s'affiche à ciel ouvert, devant l'immoralité permanente et le double langage permanent du régime, et surtout, on ne l'a pas souvent dit, surtout devant les perspectives, la crainte, devant les perspectives extrêmement critiques de l'économie et de la société algérienne.
Je vous pose la question à tous les deux, car les débuts du Hirak ont été présentés comme spontanés, voire surprenants. Pour les observateurs engagés de l'Association des droits de l'homme Algeria Watch que vous êtes, je ne sais pas s'il était possible de prévoir une explosion populaire de la part des Algériens, mais néanmoins, est-ce que vous aviez le sentiment que quelque chose couvait et que quelque chose surtout était possible pour des Algériens qui semblaient presque résignés depuis la violence de la décennie noire ? François Gèze.
Oui, il y avait quand même énormément d'indices. C'était à commencer par les émeutes. Les émeutes pour le logement, les émeutes pour la route, les émeutes pour... partout, depuis les années 2000. Ça a commencé dans les années 2002.
Il ne faut pas occulter les premières manifestations qui ont lieu pendant presque 20 ans.
Voilà.
C'est ça que vous voulez dire.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que partout, dans tout le pays, alors c'était des émeutes quelquefois très, très violentes et puis qui retombaient aussitôt, qui étaient réprimées, etc., etc., mais qui manifestaient quand même une détermination, une révolte permanente. Et puis le deuxième indice, mais il y en avait beaucoup d'autres, c'est les stades. C'est-à-dire la mobilisation des jeunes dans les stades, les chansons, la grande chanson du Hirak, Casa del Muralla, ça vient des stades, n'est-ce pas ? C'est les supporters qui l'ont créé, tout simplement.
Pendant les matchs de foot.
Ouais, les matchs de foot. Et une chanson d'un niveau politique extraordinaire. Et donc, beaucoup d'indices annonçaient quelque chose se couvait, en quelque sorte. Mais évidemment, personne ne pouvait soupçonner la puissance du discours qui s'est exprimé. Parce que certes, il commence à dire non au cinquième mandat, que le système dégage. Très vite, très vite. Mais derrière ces slogans de révolte, de contestation, il y a des slogans qui dénotent une finesse d'analyse du fonctionnement du système et du fait qu'il nous a essayé de nous piéger pendant des décennies, mais on n'était pas dupes. On n'était pas dupes. Et donc, ça veut dire que dans les familles, souterrainement, les analyses, les visions du régime, de la réalité se transmettaient.
Et dans la rue, effectivement, François Gèze, vous venez de le souligner, les slogans ne se limitent pas au fameux dégage à l'encontre de Bouteflika, mais c'est bien tout un système qui est remis en question.
Bouteflika, dégage ! On est là pour dénoncer cette turpitude d'un régime mafieux, de voyous qui ont pris le pays en otage, qui veulent imposer à l'Algérie un homme qui est presque vivant.
Et cet homme, presque vivant, pour ne pas dire presque mort, c'est bien le président Abdelaziz Bouteflika, dont l'état de santé ne permettait plus, déjà en mars 2014, de se présenter aux élections en l'annonçant lui-même. Néanmoins, Abdelaziz Bouteflika a été président de l'Algérie d'avril 1999 à avril 2019. Il est une figure historique de la guerre d'indépendance. Il a été ministre dès 1962. En quoi, François Gèze, incarne-t-il un système liberticide tel que le dénoncent les manifestants et tel que vous l'analysez dans ce livre Irak ?
Eh bien, c'est simple, parce qu'il faut savoir aussi qu'après, effectivement, avoir été un ministre dans les premières années de l'indépendance, finalement, il a été écarté du pouvoir, plus exactement.
Avec de l'exil.
Avec de l'exil pendant de très longues années, et il n'y est revenu donc en 99 pour être nommé président, élu certainement, mais avec des élections frauduleuses, par les vrais décideurs de l'Algérie, que sont les généraux, les chefs de l'armée et de la police politique, qui sont allés le chercher pour occuper la façade civile du régime, à l'issue de 10 années, de presque 8 années, d'une guerre contre les civils conduite par l'armée et la police politique, d'une violence qui dépasse l'entendement. On parle de 200 000 morts, 1,5 million de personnes déplacées, etc. On pourra y revenir. Et donc, d'une certaine façon, Bouteflika a incarné ce régime duplice, on pourrait dire, puisque les vrais décideurs se cachent. Et ceux qui sont affichés ne sont pas les vrais décideurs, n'est-ce pas ? Et ceux-là, ils vont couvrir une réalité, comme Aaron Bendera évoquait tout à l'heure, qui est celle de la corruption, de la prédation, de la mise en coupe réglée du pays et du mépris complet de la population. Cette élite, entre guillemets, politico-militaire, déteste sa population et la population le sait.
Donc on a un système dont le président Bouteflika, finalement, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il serait une sorte de marionnette derrière laquelle différents clans, militaro-industriels, Omar Bendera, se partagent en quelque sorte la rente des hydrocarbures du pays. Et c'est pour ça que vous insistez, vous qui êtes économiste, sur le fait que les origines du Irak ne sont pas seulement le problème du manque de liberté. Vous insistez sur la dimension économique et sociale, sur les souffrances quotidiennes du peuple algérien.
Oui, ben évidemment, ce ras-le-bol populaire n'a pas une seule motivation. Il est alimenté par les conditions objectives de vie, par la dégradation visible des perspectives économiques. On sait très bien que nous nous acheminons vers des lendemains très critiques, inquiétants.
Mais pourquoi ?
Parce que la rente pétrolière se rétrécit comme peau de chagrin, parce que les réserves de change s'évaporent, alors même que dans la période entre 2003 et 2013, l'Algérie a reçu au titre de ses exportations d'hydrocarbures entre 850 et 900 milliards de dollars.
Et justement, pendant cette période, pendant laquelle François Gèze soulignait, il y a eu des émeutes, il y a pourtant eu des distributions, les Algériens ont des logements, ils ont un travail.
Un travail, non. Le taux de chômage est l'un des plus importants du bassin méditerranéen et n'a pas été vraiment corrigé par la distribution régalienne de la rente.
C'est quoi, en fait, c'est 25% de chômage ?
Il est très difficile
de chiffrer.
Franchement, la première victime de la répression et du putsch, ça a été l'appareil statistique algérien. On n'a pas de tableau de bord réellement efficace et toutes les données, y compris celles de la Banque mondiale, sont à prendre avec les plus grandes précautions. Le taux de chômage est astronomique et on peut en avoir une idée à travers le mouvement des Haraga, vous savez, tous ces jeunes qui s'embarquent sur des rafios de fortune pour tenter de traverser la Méditerranée. Donc ça vous donne une claire indication du niveau de désespoir d'une partie de la jeunesse et d'une partie de la population qui voit bien cette détérioration objective de ses conditions. Cela dit, pour revenir sur Bouteflika juste une seconde, Bouteflika a été nommé par les militaires pour assurer le relifting l'image du régime. L'image du régime, comme le disait François Jez, a été extrêmement détériorée par l'extraordinaire violence des années 90, 200 à 250 000 morts, près de 20 000 disparus et ainsi de suite, des dizaines de milliers de cadres exilés. C'est une perte de substance dont on ne mesure pas les effets sur la société algérienne, mais ils sont bel et bien présents. Donc nous avons affaire à un système qui a su masquer, comme le disait un des intervenants, ses turpitudes derrière une sorte de logomachie antiterroriste. Il a su terrifier la population à travers cette guerre et dès qu'il en a eu les moyens, il a essayé d'acheter les consciences et d'anesthésier la contestation sociale par la distribution régalienne d'une partie de la rente.
Écoutez la marche du monde sur RFI. Nous nous interrogeons sur les origines du Hirak en Algérie, le mouvement de contestation qui a conduit à la démission du président Bouteflika le 2 avril 2019 et qui revendique beaucoup plus le changement d'un système. Une aspiration au changement qui n'est pas nouvelle dans l'histoire contemporaine de l'Algérie. Dans votre livre « Hirak en Algérie », vous revenez aux émeutes d'octobre 1988, des émeutes réprimées dans le sang. Mais à l'époque, Omar Bendera, qu'est-ce qu'elles traduisaient, ces émeutes, dans la population ?
Dans la population, elles traduisent un désespoir, une malvie extraordinaire, en particulier de la jeunesse. Nous sommes en 88, 2 ou 3 ans après la chute très brutale des prix du brut. L'Algérie n'arrive plus à faire face à ses engagements extérieurs, elle n'arrive plus à payer sa dette, elle n'arrive plus à importer de manière régulière sa consommation alimentaire et pharmaceutique, par exemple. Il y a des pénuries, des tensions, le chômage est endémique, les libertés sont étouffées comme jamais, il y a un parti unique, un journal unique, une pensée unique. C'est une situation explosive. Et en même temps, comme d'ailleurs en 2019, en même temps, il y a la contraction de la rente ne fait pas seulement que des victimes dans la population, si j'ose dire, mais également au pouvoir, puisque le partage des bénéfices, le partage des dépouilles ne se fait plus de manière aussi facile que quand les ressources sont importantes et considérables, comme ça a pu être le cas avant 85 et jusqu'en 2013. Donc ce qui se passe, c'est que les contradictions au sommet du pouvoir, comme en 2019, vont aboutir en 88 à un règlement de compte intergroupe d'intérêts par l'intermédiaire de la rue. On va manipuler l'opinion qui est déjà prête. On ne manipule pas une opinion qui n'est pas prête. L'opinion est prête à l'explosion en 1988. On sentait venir ce ras-le-bol, l'expression de ce ras-le-bol. Comme le disait François Jez, dans les stades, c'était une émeute hebdomadaire, dans tous les stades d'Algérie.
C'est pour ça qu'à la télévision, François Jez, on coupe le son. Oui. Pour pas que les téléspectateurs écoutent les slogans dans les stades. J'ai lu ça dans ce livre. C'est incroyable.
C'est la chape de plomb. Hein.
C'est la chape de
plomb. On parle en marre, oui.
Voilà. Donc, si vous voulez, ce sont les mêmes causes, mais pas les mêmes effets. Autant en 2019, la révolution populaire du peuple va être pacifique, parce qu'elle a tiré les enseignements de la sale guerre contre les civils et tiré les enseignements d'octobre 88, l'opinion sait que le régime est violent et brutal et qu'il n'aspire qu'à une répression violente et brutale. ils le savent.
Alors revenons sur ce moment d'histoire en Algérie et sur ce qui va précéder, au fond, cette décennie noire, c'est-à-dire cette ouverture démocratique qui verra émerger le Front islamique du salut. Et pour cette jeunesse qui souffre, pour cette jeunesse qui s'ennuie, pour cette jeunesse qui n'a aucune liberté, l'émergence de ce Front islamique du salut va donner un espoir avant l'annulation des élections législatives gagnées par le fils en décembre 91. Écoutez le témoignage de Nassima, 15 ans après, elle acceptait de revenir à la mosquée de Souna, là où prêchait Ali Belhadj, l'imam superstar, cofondateur du fils avec Abbassi Madani, aujourd'hui décédé.
Si tu avais vu à l'époque des années 90 et tout, Souna, tu dirais que tu étais à la Mecque, que c'est pas possible que ça soit une petite mosquée à Bab el-Oued, tellement le monde fou qu'il y avait. Et des gens qui venaient de partout, des gens qui venaient de Blida, de Bouira, de pas mal de régions, de Palestro, des gens qui venaient spécialement les vendredis pour écouter les discours d'Ali Belhadj.
Nassima, on arrive tout auprès là, de la mosquée El Souna. Ça te rappelle des souvenirs ?
Oui, c'est l'appel à la prière maintenant, ça me fait rappeler beaucoup de souvenirs.
Comment ça se passait au début des années 90 ?
Là où on est maintenant, il y avait du monde qui priait ici.
Là, tout autour de la mosquée, il y avait du monde partout, dans toutes les petites rues.
Oui, oui, et il y avait beaucoup plus de monde, de toute façon, par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Et tu voyais des gens en vagues qui venaient vers cette mosquée précisément, tu vois.
Pourquoi tout le monde venait justement ici, dans cette mosquée, dans le quartier de Souna ?
Disons qu'à l'époque, il y avait Ali Belhadj, il y avait Abbassi Madani, mais beaucoup plus Ali Belhadj. C'était tout le monde qui était attiré par Ali Belhadj, par son discours.
Alors qu'est-ce que tu venais entendre ? Qu'est-ce qu'il te disait à l'époque, dans ses prêches ? Est-ce qu'il parlait de tes problèmes, de vos problèmes ?
Oui. Par exemple, le problème énorme, c'était le problème du logement. Bon, il nous disait qu'il fallait qu'on mette la main dans la main pour s'entraider. Il nous poussait à faire que du bien et à s'entraider entre nous, si tu veux. Il nous apprenait l'islam. On savait que faire le carême et faire la prière, c'était rien que pour les vieux, c'était pas pour les jeunes. Alors il nous a fait comprendre que c'était tout musulman qui devait la faire et la faire au sens propre du mot.
Toi, Nassima, à l'époque, tu avais quel âge ?
J'avais 21 ans, 22 ans.
Et qu'est-ce que ça représentait pour toi de venir ici tous les vendredis ? Est-ce que ça te faisait du bien ?
Oui, beaucoup de bien.
Pourquoi ?
Ça me faisait beaucoup de bien. Parce qu'on parlait de Dieu, de nous, du paradis, si tu veux. Voilà, c'était ça.
Et tu croyais vraiment que les choses allaient s'améliorer ?
Oui, oui, oui. J'y croyais vraiment. J'avais vraiment de l'espoir et qu'on avait trouvé, ça y est, notre sauveur, si tu veux.
Et pour tes amis qui t'entouraient aussi ?
Aussi, oui, oui, on partageait toutes la même idée, que c'était lui, l'homme avec grande tâche. Hein. Quand on faisait notre prière, on pleurait. Là, maintenant, j'ai la chair de poule parce que je me rappelle de tout ça et ça me fait du mal. C'était une personne, si tu veux, qui nous a fait voir une autre vie, une vie meilleure. Malheureusement, on a subi que les pires. C'est tout.
Tu as été déçue ?
Oui, trop même. D'ailleurs, je n'ai plus remis les pieds, ça fait longtemps, dans cette mosquée. C'est la première fois que j'ai remis le pied aujourd'hui avec toi.
Déçue, blessée, humiliée, meurtrie, Nassima a vécu le cauchemar de la guerre au civil. Dans ce reportage d'archives de la Marche du Monde, je rencontrais également le général Nézar qui me racontait comment le président Chadli aurait démissionné afin que les militaires reprennent en main le pays.
Nous n'avions pas décidé nous-mêmes de l'arrêt du processus électoral. Il y avait un vide institutionnel. Le président démissionnait et il a démissionné de lui-même. Personne ne l'a forcé. Nous n'étions même pas prêts, nous.
Et le 11 janvier 1992, c'est la démission ou la déposition du président Chadli. Dans les rues d'Alger, les blindés apparaissent devant les édifices publics. Devant l'appel à résister du fils, une vaste opération d'arrestation est déclenchée. Le fils est dissous le 4 mars et Mohamed Boudiaf, membre du haut comité constitué de 5 membres, dont le général Nézar, est lui assassiné le 29 juin suivant. Escalade de la violence, attentat, assassinat, répression, disparition. Écoutez Mohamed, il acceptait en 2006 de raconter sa détention forcée dans les camps.
92, les policiers, ils m'ont pris parce que je portais de la barbe, juste pour ça.
La barbe ?
Oui, c'est la barbe. Ils le disent là-bas, c'est juste pour ça. Ils m'ont dit que tu es un membre d'office. Non, je ne suis pas un membre d'office. Je fais juste la prière. Pourquoi tu mets là-bas ? Pourquoi tu fais ça ? Tu es un sympathisant ? Non, je ne suis pas un sympathisant d'office. Je suis un musulman. J'ai rien fait. Ils m'ont laissé pour 2 ans.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans dans le camp?
Ils nous ont mis dans des tentes.
Qu'est-ce que vous faisiez toute la journée dans le camp?
Rien. Juste rester au camp. Hein. Mais le camp, il était entouré, surveillé par les militaires. Ce camp se trouve dans la wilaya de Tamil Asset. C'est une zone isolée dans le désert. Même si tu te sauves, tu vas mourir dans le désert.
Pendant 2 ans, vous avez vu combien de personnes dans ce camp?
Plus que 3000.
Et quand on repart du camp, on peut retrouver son travail?
Non, c'est impossible. Ils m'ont brisé toute ma vie avec ça.
Des vies brisées par 10 années de violence de l'État et des groupes armés islamistes et la mort de 200 000 Algériens, au moins, sans compter les disparus, les dégâts physiques, les dégâts psychologiques. Et 20 ans plus tard, François Gès, dans les manifestations du Hirak, il y a aussi la demande de justice des familles de victimes de la guerre contre les civils des années 90.
Oui, parce que cette mémoire, elle est toujours présente, même si... Il y a eu des lois d'amnistie au début des années 2000 sous Bouteflika qui ont interdit tout simplement, qui ont amnistié les criminels, qu'ils soient militaires ou qui se réclament des groupes armés de l'islam. Il était aussi interdit d'en parler. Il était interdit aux familles de dénoncer les criminels qui avaient enlevé leur père, leur fils, qui les avaient fait disparaître, n'est-ce pas? Et donc ça, c'était malgré tout toujours présent. Des mères qui ont continué à manifester tous les mercredis, comme les folles de mai en Argentine, face à une répression terrible, face au silence et à la désinformation médiatique permanente, permanente. Et néanmoins, on a vu apparaître cette parole timidement au début, dans les premières manifestations des vendredis, et puis de plus en plus fortement, notamment à Constantine, où les familles de disparus ont occupé la rue chaque vendredi et ont dit haut et fort qu'elles demandaient la vérité et la justice.
Est-ce que Algeria Watch sait ce qu'est devenu le général Nezzar?
Non, pas vraiment. On sait qu'il est en fuite. On sait qu'il est poursuivi par l'appareil judiciaire algérien. On sait qu'il est accusé d'avoir trempé dans une conspiration visant à renverser l'ex-chef d'état-major, aujourd'hui décédé, Gaïd Salah. Mais on ne sait rien d'autre. C'est un homme de main, une sorte de soudard sans qualification autre qu'une main de fer sur la population qu'il s'est chargé de mettre au pas avec une violence et une férocité implacable. Oui.
Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais quand on évoquait octobre 88 et les émeutes qui ont pu être assez violentes, l'armée a réagi en tirant dans la foule, à la mitrailleuse lourde, en envoyant les tanks. Et qui commandait l'armée à Alger et qui a commandé ces tueries qui ont fait plus de 500 morts? Le général Nezzar, qu'on entendait tout à l'heure dans votre archive, n'est-ce pas? Et donc c'est ce dérapage absolument monstrueux qui a débouché sur la démocratie contrôlée, on peut dire, qui a prévalu entre 89, 90, jusqu'à la fin de l'année 91, n'est-ce pas? Qui a permis au gouvernement des réformateurs, dans lequel Omar Bendera d'ailleurs était impliqué avec beaucoup d'autres, d'essayer de construire des premières réformes vraiment fondamentales.
C'est le moment, François Gès, donc sous la présidence Chadli, où en quelque sorte le politique essaie de reprendre la main sur le militaire, vous diriez
ça? On essaye, malgré une présence des militaires et de la police politique qui est toujours extrêmement forte. Et c'est l'occasion, vous le rappeliez tout à l'heure, où le Front islamique du salut va être légalisé en septembre 89 et va représenter un espoir immense jusqu'à l'élection législative de décembre, dont le premier tour est donc remporté par le fils, n'est-ce pas? Il était certain que le second tour, qui allait avoir lieu début janvier, leur donnerait la majorité au Parlement. Et c'était les premières élections à peu près correctes et non trafiquées de l'histoire de l'Algérie indépendante, n'est-ce pas? D'où le coup d'État, parce que M. Nezzar, qu'on a entendu tout à l'heure, est un menteur. Chadli n'a pas démissionné de lui-même. Il a été poussé dehors par ceux qu'on a appelés les janviéristes, le général Nezzar, le général Mohamed Lamari, le général Mohamed Médiane, qui était le patron de la police politique, le DRS, le général Smaïn Lamari, quelques hommes comme ça qui ont déclenché une guerre contre les civils qui va durer presque 10 ans.
Ce qui est très intéressant, François Gès, lorsqu'on revient justement sur le mouvement Hirak, ce mouvement de libération de la rue en Algérie, et qu'on revient justement sur l'histoire longue de l'Algérie, notamment sur ces fameuses années 90, c'est que l'on retrouve les personnalités militaires que vous venez de citer. Mohamed Médiane, dit Toufik, chef de la police politique du régime et directeur du département du renseignement et de la sécurité de 1990 à 2015. On retrouve Atman Tartag, dit Bachir, ex-responsable d'un des plus grands centres de torture et d'exécution extrajudiciaire du DRS, celui de Blida, dans les années 90. Et tous les deux vont se retrouver accusés
par le camp, justement, on va dire Bouteflika. Hein, et après même la démission de Bouteflika, vont être finalement accusés de préparer un coup d'État.
L'Algérie, où des arrestations ont eu lieu hier au lendemain d'un 11e vendredi de mobilisation dans le pays. Pas n'importe quelles arrestations puisqu'il s'agit de Saïd Bouteflika, le frère de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, mais aussi de deux anciens responsables des services de renseignement, Mohamed Médiane et Bachir Tartag. Tous trois avaient été mis en cause par le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah car ils s'opposaient à la solution de sortie de crise choisie par le chef de l'état-major à Alger, Leïla Berhatou.
Début avril, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah mettait en cause Saïd Bouteflika, le frère du président, pour son opposition à une sortie de crise constitutionnelle. Si Abdelaziz Bouteflika a fini par démissionner, d'autres personnalités s'exprimaient par la suite, pointant du doigt le frère du président pour son rôle de décideur en dehors de toute fonction officielle. Deux semaines plus tard, le chef d'état-major s'attaquait alors à Mohamed Médiane, l'ancien chef des services de renseignement, lui reprochant d'avoir tenu une réunion avec Yamin Zerwal, l'ancien président, pour évoquer une solution de sortie de crise différente de la sienne. Il semble donc que les arrestations des trois hommes soient la suite des décisions prises par Ahmed Gaïd Salah après la série d'arrestations d'hommes d'affaires proches du cercle présidentiel. Selon la presse algérienne, Saïd Bouteflika, Mohamed Médiane et Bachir Tartag, le chef des services de renseignement qui avait quitté son poste quelques jours après le départ d'Abdelaziz Bouteflika, devront comparaître devant le tribunal militaire de Blida.
Nous sommes en mai 2019, Omar Bendera. Qu'est-ce qui se passe en Algérie ?
Ce qui se passe, c'est une lutte pour le pouvoir. Une lutte pour le pouvoir qui oppose différents groupes d'intérêts. Il est remarquable de constater que les arrestations de ces militaires autrefois omnipotents est précédée par celles d'oligarques, d'hommes d'affaires, qui leur sont plus ou moins associés. Parce que depuis l'explosive augmentation des recettes pétrolières en 2003-2004, on a vu apparaître, émerger une nouvelle catégorie d'hommes d'affaires extrêmement puissants sur le modèle mutatis mutandis de leurs homologues post-soviétiques. Donc ces oligarques ont été les premières victimes de la lutte des clans. Et ce n'est pas la lutte des groupes d'intérêt, ce n'est pas un hasard, puisque cette lutte pour le pouvoir, c'est au fond une lutte pour l'argent, pour le contrôle de la rente. Et il est donc presque mécanique que ce soit ceux qui soient chargés de gérer cette rente, in fine, ceux qui sont chargés de gérer les comptes à l'étranger, ceux qui sont chargés de transférer l'argent sur les patrimoines et de les gérer ailleurs, qui soient les premières victimes de ce règlement de compte. Donc il y a effectivement les oligarques qui sont arrêtés, puis des généraux, pas seulement ces deux généraux. Ces deux généraux sont particulièrement emblématiques puisqu'ils étaient l'un et l'autre les chefs de la police politique, donc premier chef responsable de la répression la plus sanglante qu'ait connue l'Algérie depuis l'indépendance. Mais il y a aussi des chefs de région militaire. Il y a des généraux extrêmement importants dont certains sont encore en fuite. Il y a plusieurs dizaines d'officiers supérieurs qui sont également arrêtés. Donc il y a l'élimination, l'élagation d'une branche du pouvoir par une autre branche du pouvoir.
François Gèze, ça nous rappelle des purges à la soviétique ou à la chinoise, ce genre de fonctionnement.
Oui, ça rappelle de loin, mais je dirais pas ça parce que, comment dire, le point essentiel qu'a rappelé Omar Bendera, c'est qu'est-ce qui unifiait tous ces chefs, n'est-ce pas, tous ces clans ? C'était la captation de la rente. Et ça, on l'a retrouvé à cette échelle-là dans aucun autre État autoritaire dans le monde.
Donc cela veut dire que les différents clans arrivaient tout de même à trouver des compromis.
Toujours.
Pour maintenir en pare-feu, en quelque sorte, la figure tutélaire de la présidence Bouteflika.
Voilà. Si vous voulez, sur Algeria Watch, nous avons publié énormément d'articles depuis plus de 20 ans, 25 ans, pour essayer de documenter justement cette lutte des clans, en alertant toujours nos lecteurs, en disant, bon, peut-être qu'effectivement, le clan du DRS va prendre le dessus un moment sur le clan de l'état-major de l'armée, et à un autre moment, ce sera l'inverse. Mais néanmoins, faut même éviter le terme de lutte des clans, parce que ça donne une fausse image. En fait, ils se bagarrent sur la captation de la rente, sur le contrôle des circuits de corruption, à la fois qui viennent des flux d'importation, on prend des commissions, et des flux d'exportation d'hydrocarbures, sur lesquels on prend également des commissions. Mais toujours, toujours, ils se mettaient d'accord. Et là, d'une certaine façon, l'irruption du Hirak dans le paysage politique algérien et social a été d'une telle ampleur, d'une telle puissance, que ça a exacerbé ces conflits et qu'il y a un clan qui en a profité pour se débarrasser de l'autre définitivement.
Tout à fait. C'est exactement le schéma qui s'est passé. Alors, ces clans, ces groupes d'intérêt, moi je préfère le terme groupe d'intérêt parce que clan n'a pas de grande signification analytique. Les groupes d'intérêt, ce sont des consortiums militaro-affairistes, militaro-commerciaux. Il n'y a pas de capitaine d'industrie, hein. Il n'y a que des intermédiaires commerciaux à qui sont allouées des parts de commerce extérieur sous la forme d'affermage, hein, en réalité. Donc on a affaire à un système qui fonctionne bien tant qu'il y a les revenus sont élevés, et qui devient et qui est immédiatement qui bascule dans la crise dès que les revenus se contractent. Le gâteau rétrécit, mais les appétits sont les mêmes.
Et c'est là où on a une conjugaison, au fond, d'événements. C'est-à-dire que cette explosion des manifestations dans la rue chaque vendredi est concomitante aussi du rétrécissement du gâteau que constitue la rente des hydrocarbures. Alors, un an dans la rue, c'est aussi une formidable école politique, hein, notamment pour les femmes, très importante dans ce mouvement, dans le Hirak algérien. Écoutez l'analyse de cette femme, Amel. C'était avant l'élection présidentielle de Abdelmadjid Tebboune, le 19 décembre 2019.
Moi, je pense que l'Algérie de l'après 22 février ne sera jamais l'Algérie de l'avant 22 février. Il y a des choses qui sont en train de changer. Peut-être que certaines choses vont être bloquées par ces élections ou par ce président, mais on a très bien vu la pancarte qui disait « Le prochain président dégage d'avance ». Il y a une certaine conscience populaire, il y a une politisation qui est revenue chez le peuple algérien. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas cette pièce théâtrale qui est la présidentielle, les choses vont se poursuivre. Il y a des risques petit à petit, les gens vont prendre une petite pause et se réorganiser à zéro, mais pour moi c'est inévitable. Et quel que soit X, je ne pense pas que les vendredis qui vont suivre les élections vont être des vendredis calmes ou des mardis calmes. Ou... Je pense qu'actuellement on n'arrive pas à être d'accord sur un fait qui pourtant est flagrant, c'est que les vendredis et les mardis ne suffisent absolument plus. Il faut vraiment s'organiser pour une autre action politique, pour dire non et les faire obliger d'écouter le non.
Une voix, l'une des voix, des nombreuses voix des femmes algériennes au micro de notre correspondante Leïla Berato, qui fait un travail extraordinaire sur le terrain à Alger tous les vendredis. Omar Bendera, sur les femmes, votre réaction ?
Sur les femmes, un sociologue qui observait les premières manifestations a attiré mon attention sur leur présence nombreuse et sur le fait qu'elles prenaient la parole et qu'elles étaient écoutées et entendues par une assemblée d'hommes. Souvent. Et ce même sociologue algérien m'a dit « Tu vois bien que la société a beaucoup changé. Cette manifestation révèle les mutations de la société algérienne. Non seulement ces femmes parlent, non seulement elles sont présentes, non seulement elles s'expriment, et c'est pas toujours rose. C'est pas toujours, nous ne sommes pas à la veille d'un changement du paradigme patriarcal de la société algérienne. Hein. Ce ne sont que les prodromes, les signes avant-coureurs d'une mutation à venir. Mais la société a déjà changé. En tous les cas, ce qu'on peut constater, ce que disait ce sociologue, c'est que ces jeunes femmes et jeunes hommes qui manifestent sont la première génération dont les mères ont été massivement alphabétisées. Et donc ça, il y a ici une transformation qualitative de la société. Donc les rapports hommes-femmes dans les manifestations, le vendredi, sont des rapports tout à fait exemplaires. Mais les travers et les comportements antisociaux de la semaine continuent d'exister néanmoins.
Et c'est un fou d'Algérie qui nous parle, un amoureux de l'Algérie qui nous parle. Voilà. François Guez, malgré tout ce qui est assez terrifiant, dans votre analyse du système répressif algérien, c'est que vous montrez la puissance et le savoir-faire de l'État à détruire ou à instrumentaliser justement tout groupe, toute forme d'opposition.
Oui, alors justement, c'est ça qui est l'élément très très nouveau du Hirak, c'est que jusqu'à présent, jusqu'au déclenchement de ces manifestations, des vendredis et des mardis, la personne que vous interviewiez parlait des mardis, c'est les mardis des étudiants. Tous les mardis, les étudiants défilent également. Eh bien, auparavant, chaque fois qu'il y avait un groupe d'opposition, quel qu'il soit, syndical, étudiant, il était infiltré, manipulé, cloné par des agents de la police politique.
Cloné. Vous voulez dire quoi?
Ça veut dire qu'il y avait des agents qui se faisaient passer pour des militants, qui rentraient, qui allaient jusqu'à la direction de ces petits groupes, de ces organisations, et qui se disaient plus radicaux que les plus radicaux, jusqu'à obtenir une scission. Mettons dans les syndicats autonomes, on a beaucoup travaillé avec eux là-dessus, ça a été manifeste. C'est-à-dire systématiquement, on a vu, mettons, un des premiers syndicats autonomes de la fonction publique, le SNAPAP, a été comme ça infiltré et scissionné. Et on a eu deux SNAPAP. Un SNAPAP d'origine, si j'ose dire, et un SNAPAP à la botte de la police politique.
Donc on brouille les pistes et puis ça permet de réprimer.
Voilà. Avec aussi, on entretient la confusion, c'est-à-dire la désinformation dans les médias, dans les réseaux sociaux, dépasse l'entendement. Il faut savoir qu'il y a un service d'action psychologique au sein de la police politique, qui est toujours là aujourd'hui, n'est-ce pas, et qui a mis au point, pendant les années de la sale guerre en particulier, des contre-discours d'une efficacité redoutable pour essayer d'embrouiller tout le monde, l'opinion internationale, mais aussi la population. Eh bien, là, les mêmes procédés ont été mis en œuvre pour essayer de contrer le mouvement, et ils ont échoué systématiquement. On a un article, par exemple, un chapitre dans le livre sur les mouches électroniques, qui est absolument formidable. Les mouches qui a fait nos correspondants là-bas. Les mouches électroniques, c'est ces trolls qui interviennent sur les réseaux sociaux, qui piratent les pages des vrais opposants, qui créent des pages de faux opposants, etc., etc. Eh bien, ils nous racontent, le papier est formidable, que ça n'a pas marché. C'est-à-dire, ils sont des dizaines, des centaines de gars payés pour faire ça. Et néanmoins, ça échoue systématiquement. Et donc là, pour le coup, on a l'impression quand même d'un ébranlement de la puissance, ce qui faisait justement la puissance de domination des appareils de sécurité, à commencer par le DRS, la police politique, enfin qui a changé de nom, mais peu importe, un ébranlement très profond.
Donc François Jaize et Omar Bendera, vous ne croyez pas à une répétition de l'histoire en ce qui concerne la répression par l'envoi des chars, par les tirs de mitraillettes, comme ça a pu avoir lieu lors des émeutes sanglantes de 88.
Tout est possible, il ne faut écarter aucune hypothèse. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie tentation de la reprise en main. Ça, c'est certain. Il est certain que l'on assiste à une radicalisation de la répression policière. Et il est vrai qu'on assiste à une montée des arrestations arbitraires et des condamnations absolument farfelues de gens parfaitement pacifiques qui n'ont rien fait d'autre que de manifester et qui sont accusés d'incitation à attroupement armé et atteinte au moral de l'armée.
Là, vous n'exprimez pas une opinion, vous parlez bien en tant que membre de Algeria Watch.
Oui, mais je parle aussi en tant que citoyen algérien, en tant qu'observateur. C'est un fait qui est corroboré par tous les observateurs sur le terrain. Il y a bien une accentuation de la répression. Et là, si vous voulez, on voit bien, comme le disait François Jaize, la maturité politique, la maturation politique de la population fait qu'elle résiste bien à toutes les provocations et à toutes les manœuvres. En même temps, il faut bien comprendre que rien n'a changé en Algérie. Si tout a changé dans les représentations et dans les superstructures, rien n'a changé dans la nature du pouvoir et dans son organisation. Le pouvoir continue de contrôler tous les médias. Le régime algérien continue de ne parler qu'avec lui-même à travers une pseudo-opposition préfabriquée qu'il présente au monde comme une sorte d'opposition autonome et libre, alors que tout le monde sait à Alger, jeune et vieux, que cette opposition est totalement factice. C'est une opposition de dessin animé, comme on dit en arabe, hein, Mu'arada Kartoniya, une opposition de dessin animé. Et ça, si vous voulez, fait que nous sommes dans une sorte de temps suspendu où tous réalisent l'étendue de la supercherie et de l'imposture, mais elle est toujours là, est toujours présente et toujours active.
Je voudrais tout de même clore cette émission sur l'espoir démocratique et la formidable créativité de ce mouvement. Nous écoutons la toute première chanson dédiée au Hirak, la semaine qui a suivi le 22 février 2019. طالبين ديمقراطية هاك الورد زيد الياسمين في مسيرة سلمية عالتغيير معولين
اليوم الشعب ليبرال الجيري يلعب
بعشرة والسيستم ما فهموش كوتسيزو يجيبها بارا ويماركي ما تحقروش عشر سنين تدمر عشرة ويلو مازل مش بعتوش وبربي هاد المرة ويلو ناضة ما تفوتوش
Amine Chiban esquisse une chanson le lendemain de la manifestation et il contacte la jeune actrice Mounia Lashtar, Amel Zen et Aboubakr Maatala. Ce collectif écrit ensemble la chanson et compose la musique. On va se quitter sur cette magnifique chanson. Comment vous expliquez ce succès phénoménal, l'un et l'autre? François Gez.
C'est pas la seule, hein.
Des
chansons ont 10 millions de vues sur YouTube, des choses absolument formidables. Mais parce que, comment dire, là aussi, on a un chapitre là-dessus dans notre livre. C'est une qualité d'expression, une puissance d'expression qui reflète tellement bien la mobilisation populaire qu'on se dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ça, ce moment d'histoire, cette année de mobilisation qui va certainement continuer mais qui va changer, on peut le penser, dans 3 générations, on en parlera encore. C'est quelque chose de phénoménal.
Oui. Omar Bendera a raconté aux petits-enfants, évidemment, ce moment d'histoire.
Ah ben, forcément.
C'est à vivre, surtout.
C'est à vivre, mais c'est surtout, j'aime pas beaucoup cette formule trop galvaudée, mais il y a une sorte de rupture épistémologique, une rupture de... Il y a un avant Hirak et un après Hirak.
C'est ce que nous disait Amel.
Et nous avons un espoir immense, surtout que ce Hirak est porté par la jeunesse. Et c'est vrai que les résultats de cette lutte politique de masse, de toute la population, n'apparaissent pas encore aujourd'hui. Mais ça finira par apparaître. Et aussi difficile, aussi complexe et aussi brumeuse que soit la situation actuelle, le soleil finira par se lever sur une Algérie libérée, sur un peuple enfin maître de son destin.
Merci à tous les deux, Omar Bendera, François Gez. Je rappelle le titre de votre livre collectif, Hirak en Algérie, l'invention d'un soulèvement, c'est aux éditions La Fabrique. Algérie, aux origines du Hirak, signé Valérie Nivelon, Sophie Janin et Leila Berato, avec les archives de RFI. N'hésitez pas à réagir, abonnez-vous au podcast de l'émission avec votre téléphone. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, cette émission, c'est la vôtre.
Pas. On cherche notre dignité avant tout.
Je ne crois pas que le changement va se faire en une seule vie. Ça fait un an qu'on marche et le changement ne viendra pas en 5-6 ans, mais sur une vie ou deux vies. On a gagné vraiment la conscience d'un peuple qui veut un changement bien précis. Voilà. Et c'est les médias, c'est la justice, c'est notre quotidien, c'est être libre carrément.
L'épopée des musiques noires.